Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h. Au sommaire de l'émission ce 28 novembre, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Et puis le débat du week-end, alors que des dizaines de rassemblements doivent se tenir aujourd'hui partout en France pour protester contre la loi sécurité globale. Vous l'entendiez dans le flash de Mariam. Des marches des libertés organisées sur fond de crise politique et après l'agression violente d'un producteur de musique par des policiers dans le 17e arrondissement de Paris. Comment le maintien de l'ordre peut-il dégénérer en politique du désordre ? Politique du désordre, c'est justement le titre d'un livre qui vient de paraître au Seuil et que co-signe notre invité. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il a mené une enquête de fond sur la police et notamment sur la brutalisation du maintien de l'ordre en France. Rendez-vous avec Fabien Jobard dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on commence avec le duel, Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va commencer avec un petit air, un tout petit air de liberté.
La situation s'améliore grâce aux efforts de tous. Mais ces chiffres, pour encourageants qu'ils soient, restent encore fragiles. Nous ne pouvons donc pas baisser la garde.
Le Premier ministre français Jean Castex, lors d'une conférence de presse avant-hier, après le plan annoncé par Emmanuel Macron, le Premier ministre détaillait donc les mesures d'allègement du confinement. Le confinement qui serait levé le 15 décembre si la situation continue de s'améliorer, pour être remplacé par un couvre-feu national. Vous le savez, les petits commerces rouvrent aujourd'hui. Les déplacements sont désormais permis dans un rayon de 20 km et pendant 3 heures. Il est impératif et il restera impératif de limiter le nombre de convives chez soi et particulièrement au réveillon. Les stations de ski pourront elles aussi rouvrir, mais les remontées mécaniques resteront fermées. Bref, un ensemble de mesures. Comment qualifier cette zone étrange dans laquelle nous entrons, Gilles Finkelstein ?
C'est un processus. Il y a eu en réalité assez peu de surprises dans l'intervention du président de la République, c'était relativement attendu. Elle a eu le mérite d'offrir un cadre, de la visibilité, un calendrier, des critères. Et donc on voit un peu plus clair sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois.
Mais petite aire de liberté
temps, petite aire de liberté, un petit pas pour l'homme. En même temps, ce qui est très frappant, c'est que après l'intervention du président de la République, on a eu, comme souvent, un certain nombre d'ajustements, notamment sur les églises. On a vu un certain nombre d'incompréhensions, je pense à l'ouverture ou à la non-ouverture des stations de ski, ou en tout cas des remontées mécaniques, et puis le lancement d'un certain nombre de concertations. Et ce qui m'a frappé, c'est que par un hasard de calendrier, au même moment, oui, Angela Merkel annonçait les mesures pour l'Allemagne, et c'était de voir la différence entre les deux processus. Ici, Emmanuel Macron décide, puis nous discutons beaucoup, et nous appliquons assez peu. En Allemagne, ils discutent beaucoup avant, ils décident collectivement et ils appliquent relativement mieux les décisions. C'est vrai pour la crise sanitaire, mais c'est vrai de manière générale. Et donc, c'est pas simplement une question de procédure démocratique qui est différente, c'est que les effets de chacune de nos institutions se font sentir.
Natacha Polony.
Gilles a tout à fait raison, ce n'est pas seulement une question de procédure démocratique, c'est une question de démocratie tout court. C'est-à-dire que la procédure traduit aussi un rapport entre les citoyens et les institutions. Et ce qui devient extrêmement inquiétant en France, c'est le fait que le caractère à la fois extrêmement vertical et totalement absurde de l'émission de normes administratives est en train de fragiliser dangereusement la démocratie, dans le sens où on crée des réfractaires, des gens qui ne comprennent pas, qui ont l'impression de ne pas être associés. Le principe de la démocratie, c'est qu'on accepte les lois parce que elles relèvent justement du choix des citoyens. C'est-à-dire qu'on est en fait autonome, dans le sens où on sait fixer ses propres lois, c'est-à-dire que nous les fixons collectivement. Et c'est là ce qui ne fonctionne plus. Donc quand on voit, en fait, ce n'est pas anecdotique, les ajustements après coup, parce qu'en fait ils viennent de ce sentiment d'être face à une absurdité.
Pourquoi absurde, Natacha?
Cette semaine, on a vu à quel point l'attestation commençait à apparaître aux yeux même des autres Européens comme quelque chose d'assez baroque. Quand on entend le président de la République prononcer ces mots « grâce à ces attestations, nous avons fait reculer le virus », il y a quelque chose d'effarant. Je veux dire, prononcer même cette phrase est extraordinaire.
Enfin, pourquoi
vous pensez vraiment que c'est l'attestation qui a fait reculer le virus? C'est un ensemble de règles. On peut considérer, Emmanuel Macron peut considérer que l'attestation en faisait partie, mais prononcer cette phrase est idiot et accentue le côté, l'absence de lien entre la parole publique et le réel. Aucun autre pays n'a mis en place ces attestations et ce ne sont sans doute pas ces attestations qui ont fait reculer le virus. En revanche, elle pose de plus en plus de problèmes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, dans les rapports entre les forces de l'ordre et les citoyens. De même, l'histoire de la jauge dans les offices religieux, du coup les mosquées ont décidé de ne même pas rouvrir. Les catholiques commencent à mettre en place des mouvements qui sont des mouvements de refus de la loi, ce qui là aussi est extrêmement dangereux. Pourquoi, dans quel cerveau malade a germé l'idée qu'il fallait 30 personnes et pas plus dans un office religieux, quelle que soit la taille de l'édifice? Enfin, je pense que depuis quasiment un an, nous sommes confrontés à ce genre de règles et que le fait qu'il n'y ait pas délibération, le fait qu'il y ait ajustement derrière donne l'impression que c'est la force de chaque lobby qui va déterminer qui aura droit à son ajustement. Mm-hmm. Bref, on est en train de détruire petit à petit tout ce qui fait la cohésion nationale.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois que ce que dit Natacha soulève la question de l'équilibre entre l'appel à la responsabilité et à la contrainte. Et c'est une question qui va se poser sur une autre dimension qui a été évoquée par le président de la République, qui est celle de la stratégie vaccinale, sur laquelle je trouve qu'il y a eu un certain nombre de clarifications utiles qui ont été apportées. Le fait que ce vaccin ne soit pas obligatoire, des éléments de calendrier et puis des éléments de procédure, la mise en place, comme l'avait demandé d'ailleurs le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, d'un comité de suivi avec les citoyens.
Oui.
Et en même temps, cette question de stratégie vaccinale repose cette question de l'équilibre entre la responsabilité et la contrainte. Et notamment, mon inquiétude est qu'on ne tienne pas suffisamment compte de tout ce que les travaux de psychologie sociale nous enseignent. Le risque et l'impasse devant laquelle on peut se trouver, c'est que l'on ait un discours de culpabilisation tenu par les pouvoirs publics envers les réfractaires. Je crois que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quelle doit être la cible? Ça ne doit pas être les réfractaires, ça doit être les hésitants. Et ce sont eux, après, qui entraînent le reste de la société. Qui doit parler le moins possible les pouvoirs publics sur lesquels il y a de la défiance? On a parlé des médecins généralistes, ça peut être les enseignants, ça peut être, après, des influenceurs. Et quelle tonalité adopter? Sans doute pas la culpabilisation, plutôt l'altruisme. Et donc ça, il faut, je crois, tenir compte de ces enseignements des sciences sociales dans la stratégie vaccinale qui vient.
Au-delà de la question des vaccins, on a le sentiment, à vous entendre, Gilles et Natacha, que vous soutenez ou que vous comprenez, non pas les récalcitrants, mais ceux qui veulent délibérément ne pas respecter les règles. Est-ce que je me trompe quand vous donnez l'impression d'applaudir ceux qui, par exemple, participent à des soirées clandestines? On est samedi. Salut samedi soir, par exemple, Natacha Polony.
Vous trouvez que j'ai donné l'impression d'applaudir ça?
Non, mais c'est à vous en nom qu'on a le sentiment que ceux qui refusent des règles absurdes ont raison d'une certaine manière.
Mais absolument pas. Et il y a une différence énorme entre celui qui va se déplacer à plus d'un kilomètre de chez lui parce que il a l'impression que, parce qu'il va se promener en forêt, même si c'est à un kilomètre de chez lui, ça n'est pas très grave, et l'abruti qui fait une soirée clandestine à 300 personnes dans un pavillon. Enfin, je n'ai jamais soutenu ça. Attention. Et justement, c'est le fait de confondre.
Et j'ai posé la même question à Gilles Finkelstein.
C'est très important. C'est le fait de confondre les deux qui pose problème et qui repousse ceux qui sont simplement sceptiques ou qui utilisent leur raison pour essayer d'agir à peu près correctement, qui les pousse donc à être de plus en plus réfractaires. Et c'est là où on commet une erreur. Et Gilles a tout à fait raison de faire la différence sur la question des vaccins entre ceux qui sont opposés au vaccin, et la grande majorité des gens que dans Marianne on leur a consacré un dossier, on les a appelés les vaccinoprudents, c'est-à-dire des gens qui se posent des questions qui sont légitimes, qui s'inquiètent de savoir quel recul on a sur ces vaccins, qui donc ont des doutes, qui disent « je n'irai peut-être pas me faire vacciner tout de suite ». C'est cela qu'il faut convaincre, mais on ne les convaincra pas si on leur dit en effet qu'ils sont coupables, de même qu'on ne convaincra pas les gens de faire attention aux gestes barrières, de ne pas se réunir trop nombreux lors des fêtes, si on leur dit finalement entre vous et les abrutis qui font n'importe quoi, il y a c'est la même chose. Et sur les vaccins, il faut d'ailleurs bien étudier qui sont ces vaccinoprudents. Par exemple, il y a un chiffre que je trouve extrêmement étonnant. Les femmes sont beaucoup plus sceptiques sur les vaccins que les hommes. C'est un rapport de, vous voyez, elles sont plus d'un tiers de plus que les hommes à être sceptiques. C'est tout de même très étonnant. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce sont elles qui, en général, gèrent les vaccins des enfants et donc sont plus confrontées à cela? Est-ce que c'est parce que c'est sur le vaccin, contre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus qu'il y a eu des interrogations? Voilà, il faudrait comprendre ça justement pour essayer de les convaincre, parce que ce ne sont pas des gens irrationnels, ces gens-là.
Gilles Finkelstein, est-ce qu'on a raison de se rebeller contre les mesures restrictives?
Écoutez, même réponse que Natacha, non, pas de transgression des règles. Ma préoccupation
non, mais
est
si
plus...
les règles sont injustes et absurdes.
Ma préoccupation est plus sur l'adaptation des mesures, et en l'espèce, il y a un point qui me préoccupe beaucoup dans les annonces qui ont été faites, qui concerne la situation des jeunes. Beaucoup de mesures, il faut le reconnaître, beaucoup de mesures ont été adoptées pour soutenir les jeunes. Il n'en demeure pas moins que beaucoup vont souffrir, souffrent déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, l'Observatoire des inégalités a publié son rapport annuel sur la pauvreté. La Ouais. moitié des jeunes, des pauvres en France, ont entre 18 et 30 ans. La moitié de ceux qui sont pauvres parmi les jeunes appartiennent à des familles qui sont pauvres, et l'autre moitié sont des jeunes adultes. Or, dans les mesures qui ont été adoptées, il y a beaucoup de choses pour favoriser le retour à l'emploi. Il y a beaucoup de choses pour favoriser, pour soutenir ceux qui n'ont pas de qualification. Mais ceux qui ont une qualification et qui ne trouvent pas d'emploi, et il y en a beaucoup, il y a là un trou dans la raquette encore, et beaucoup de jeunes qui sont en situation difficile.
On va revenir à la question des jeunes dans un instant avec une grande enquête menée par l'IFOP et publiée dans le magazine Marianne. Mais Natacha, encore un mot sur ce déconfinement, cet assouplissement du confinement. Je ne sais pas quelle est l'expression la plus adéquate ou la plus juste, mais est-ce que vous applaudissez aujourd'hui la rouverture des commerces, des petits commerces que vous réclamiez depuis le tout début de ce deuxième confinement?
Oui, bien sûr. On peut se réjouir en effet que la décision ait enfin été prise. Ça ne suffira sans doute pas à sauver ceux qui sont en grande difficulté, mais je pense que on voit à quel point il y a eu un effort justement pour respecter les règles, pour respecter la jauge qui a été imposée. Et encore une fois, ce n'est pas là, apparemment, d'après ce que disent toutes les études, que l'on se contamine le plus. Il va donc falloir maintenir cet effort et faire attention. Puis voilà. Mais je me réjouis pour ceux qui vont réussir enfin à vivre de leur travail.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, vous vous souvenez de la phrase du président de la République Emmanuel Macron, et je le disais justement, une grande enquête menée auprès de plus de 1000 jeunes représentatifs de la population française, 1000 jeunes âgés entre 18 et 30 ans qui ont été interrogés au mois de novembre par l'IFOP et qui donne lieu à une étude que publie et canalise le magazine Marianne, les jeunes face à la religion, aux caricatures, aux questions de genre, les jeunes qui seraient en rupture avec le reste de la population. Et justement, une étude, Gilles, avant de donner la parole à Natacha, une étude qui montre qu'ils sont en décalage, ces jeunes de 18 à 30 ans, avec le reste de la société sur toute une série de sujets pourtant essentiels, qui font pourtant partie de notre vivre ensemble. Et elle révèle aussi les fractures qui traversent cette classe d'âge, avec un fossé qui se creuse entre les sexes. Vous qui êtes un passionné, un spécialiste des sondages et des études, qu'est-ce que cette étude-là vous inspire?
Écoutez, d'abord, j'invite les auditeurs à la lire. et à lire le dossier que Marianne lui consacre, parce que je crois que on n'attache pas suffisamment d'importance à ce qui se passe dans la jeunesse, et on parle, vous l'avez dit, de cette longue période de la jeunesse, de 18 à 30 ans, qui est ce que les sociologues aujourd'hui considèrent comme la jeunesse, c'est-à-dire un âge qui commence à la fois de plus en plus tôt. On parle d'évolution sur l'âge de l'excuse de minorité, voire sur l'âge du droit de vote, et dans l'autre sens, 30 ans, parce que c'est l'âge du premier contrat à durée indéterminée, et c'est l'âge du premier enfant. Donc, cette longue jeunesse, on parle aussi d'une génération qui, comme toutes les générations précédentes, a son propre rapport au temps et son propre système de valeurs. Et c'est ça, je crois, qu'il est intéressant d'analyser et qu'illustre cette enquête. Anne Muxel, qui est une des meilleures politologues sur la jeunesse, dit « il y a deux mots, la liberté et le respect, qui sont l'espèce de code moral de la jeunesse ». Et je crois que c'est ce qu'on voit. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant cette enquête, c'est que ça a réactivé un sentiment que j'avais eu depuis plusieurs années, qui est une tentation de dénoncer cette jeunesse. Il y a un certain nombre de confusions, on le voit sur la définition qu'il donne de la laïcité. Il y a une tentation de céder à l'identitarisme que l'on voit notamment aux États-Unis. Et je dois dire que sur des questions comme le rapport à la démocratie, à laquelle ils sont moins attachés, le complotisme auquel ils sont beaucoup plus sujets, oui. Sur leur vote, j'avais eu la tentation, il y a quelque temps, d'écrire un livre en m'inspirant et en retournant la formule du général de Gaulle envers le maréchal Pétain, « La jeunesse est un naufrage ». Et je crois qu'il faut résister à cette tentation, et je trouve de ce point de vue-là l'enquête de Marianne très intéressante, et je crois que notre devoir à nous, enfin en tout cas à moi qui suis de la génération d'après, c'est de discuter avec une génération qui est une génération qui est dans l'incertitude. C'est une génération qui affiche, comme beaucoup de générations, sa certitude et qui est traversée par des incertitudes. On le voit sur le rapport à la religion, on le voit sur le rapport au genre. Je cite juste ce chiffre qui m'a frappé, je ne sais pas si ça a frappé beaucoup Natacha aussi, 22% des jeunes de 18 à 30 ans qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie homme ou femme. Oui. C'est absolument considérable. Et donc il y a, je termine par là, je trouve qu'il y a, et c'est un des éléments positifs, on voit un potentiel d'indignation dans leur insatisfaction par rapport à l'état actuel de la société. On voit un potentiel d'engagement, surtout d'engagement des femmes, dont parlait Natacha Polony tout à l'heure, et notamment sur les sujets d'égalité entre les hommes et les femmes. On voit un potentiel de générosité, et donc je crois qu'il faut veiller à ne pas dresser un mur avec cette génération, mais un pont et lui parler.
Natacha Polony.
Oui, Gilles a parfaitement bien résumé la situation, et en effet la question est de savoir comment on évite une fracture générationnelle alors que nous sommes confrontés en fait à des perceptions, des valeurs qui sont malgré tout différentes. C'est-à-dire que si on regarde cette enquête, on peut avoir l'impression que la jeunesse, par rapport aux aînés, par rapport à ceux qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, eh bien, vivent dans un autre monde. Et c'est justement cela qu'il faut éviter.
Oui.
Un autre monde dans le sens où, en effet, la perception de la société est éminemment différente. Par exemple, en effet, Gilles citait la question de ce potentiel d'indignation de cette jeunesse. Oui, on s'aperçoit qu'il y a une très grande insatisfaction sur la question de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, discrimination raciale, discrimination sur le sexe, sur l'origine, sur les religions. Mmh. C'est une génération qui est hérissée par l'idée qu'il puisse y avoir des discriminations et qui trouve le réel insatisfaisant. C'est à la fois formidable et en même temps, ça dénote peut-être une absence de recul, dans le sens où on a l'impression que c'est une génération qui ne perçoit pas toutes les avancées qu'il y a eu dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans lesquelles justement il faudrait s'inscrire pour améliorer les choses plutôt que de croire que tout cela n'a jamais existé, que nous vivrions dans une société aussi sexiste, aussi raciste que ça pouvait être le cas dans les années 50 ou 60. Heureusement, il y a eu des progrès. Et c'est vrai que j'ai été moi aussi frappée par ce chiffre sur la question du genre, 22% en effet de jeunes gens qui ne se reconnaissent pas dans les deux genres, hommes et femmes, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et je pense qu'il va falloir maintenant justement essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. C'est-à-dire que là, nous avons une photographie. Oui. Moi, je trouve passionnant de s'intéresser à la question de savoir pourquoi il y a visiblement plus de jeunes gens aujourd'hui qui estiment qu'ils ne rentrent pas dans des catégories définies. C'est-à-dire, quel est le rapport, en fait, entre l'augmentation du discours général, des recherches, des analyses sur ces questions-là, et la perception que les individus peuvent avoir d'eux-mêmes. Comment ça se joue? Est-ce qu'il y a une sorte d'entraînement de l'un vers l'autre? Je ne sais pas, et j'ai envie de creuser tout cela. Mais Gilles commençait en disant, il y a deux éléments qui ressortent, c'est la question de la liberté et la question du respect. Et oui, je suis entièrement d'accord avec lui, à ceci près que justement c'est une conception de la liberté et une conception du respect qui ne sont pas les mêmes que dans les générations précédentes. C'est très frappant sur la notion de respect. Le respect, dans les générations précédentes, est quelque chose à la fois que l'on conquiert et que l'on accorde aux autres. Il y a l'idée que quand on vit en société, on doit aux autres le respect parce qu'ils sont d'autres nous-mêmes et parce que nous vivons au sein d'une communauté. Alors que le respect dans cette jeunesse est quelque chose que l'on exige. C'est une demande qui est adressée au reste de la société, ce qui modifie complètement en fait les rapports sociaux. Et ce terme respect traduit en effet le fait que l'insatisfaction de cette génération quant aux inégalités, quant aux injustices, oui, est quelque chose qui part de l'individu et qui adresse une créance à la société. Ce qui, du coup, rend peut-être l'engagement un peu différent et peut-être un petit peu plus difficile dans la mesure où, justement, il est plus compliqué de construire une communauté, que ce soit une communauté nationale, que ce soit une ce qu'on appelle, dans une expression que je déteste, faire société.
Oui.
Mais voilà, comment construire une communauté à partir d'individus qui sont en créance? C'est
alors
ça tout le problème.
Le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, qui avait co-signé La guerre des générations aura-t-elle lieu, dit que pour exister quand on est jeune, il faut être indigné. Mais est-ce que finalement, rien de nouveau sous le soleil, Gilles? Quand on est jeune, eh ben on n'est pas forcément spontanément attaché aux valeurs, aux croyances, aux modes de vie, aux traditions de nos aînés.
C'est sans doute même une des définitions des générations et de la jeunesse, et je ne suis pas sûr que la génération qui est née avant la Seconde Guerre mondiale comprenait mieux la jeunesse qui est née après, au début des années 60. Donc de ce point de vue-là, rien de nouveau. En revanche, là où je rejoins ce que disait, où je voudrais prolonger ce que disait Natacha à l'instant d'une phrase, elle disait, c'est une génération qui ne perçoit pas les avancées des combats des générations précédentes. Elle a à la fois un autre système de valeurs, et je crois, ce qui est très important, elle a un autre rapport au temps. Elle vit de plus en plus le culte de la vitesse, de plus en plus le culte de l'instant, c'est-à-dire un temps dans lequel il y a à la fois pas de passé, et donc c'est cet oubli de ce qui a été fait avant, et dans lequel il y a peu de futur, parce que le futur est très opaque, et donc c'est ça aussi dans le dialogue avec cette génération qu'on doit essayer collectivement de reconstruire.
Et c'est vrai que c'est passionnant en tout cas de voir ce tableau qui est fait, notamment des jeunes femmes. Natacha, encore un mot justement sur cette catégorie-là parmi les jeunes, celle des jeunes femmes qui sont plus seules et peut-être plus sujettes aux discriminations encore qu'on pouvait l'imaginer.
Elles sont en tout cas beaucoup plus indignées, justement. Et c'est cela qui est très intéressant. Alors, on le voit bien, en fait. On le perçoit. Vous regardez une manifestation, notamment des manifestations d'étudiants, des manifestations de jeunes gens pour le climat, et vous voyez une majorité de jeunes filles. Il y a un engagement beaucoup plus fort de la part des jeunes filles et une perception beaucoup plus radicale des discriminations, de tout ce qui ne serait pas satisfaisant. Et en particulier, évidemment, les discriminations de sexe, qui sont beaucoup plus flagrantes pour ces jeunes femmes que pour les jeunes hommes, dans la mesure où elles sont extrêmement nombreuses, au point d'ailleurs que c'est très amusant, c'est-à-dire que ça se traduit par un retour de la guerre des sexes. Enfin, je dis c'est très amusant, c'est intéressant à observer, je pense pas que ce soit amusant à terme.
Non.
C'est-à-dire que vous avez 46% des jeunes de 18-30 ans qui considèrent qu'il est compréhensible que des femmes disent détester les hommes. C'est-à-dire que les rapports sont plus violents, on ne va pas vers un apaisement. Et là aussi, je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui se joue chez ces jeunes femmes autour de ce qu'on va appeler l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont beaucoup plus sensibles à la question du sexisme, elles reportent ça sur l'ensemble des discriminations et ont tendance donc à être beaucoup plus insatisfaites de l'état de la société.
En tout cas, l'enquête est passionnante, effectivement, cette photographie de la jeunesse à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le sociologue Fabien Jobard.